franceinter.fr.
Le journal, bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous. Nixon a vu Mao et Zhou Enlai en pleine guerre froide. Sadat est allé à Jérusalem en 77. Trump va-t-il serrer la main de Kim dans les prochaines semaines? Le président américain est prêt à un sommet avant mai avec le chef de la Corée du Nord. Un joli coup diplomatique et inattendu s'il se confirme. Qui s'est déjà produit ailleurs dans l'histoire? Nous ouvrons les archives. Une nouvelle carte judiciaire et la création du tribunal criminel. Deux axes de la réforme de la justice, on la détaillera. Au sommaire également ce soir, l'Europe prête à négocier pour éviter les taxes américaines sur l'acier et l'alu. Les médicaments tellement difficiles à acheminer dans la Ghouta en Syrie. Le début des Jeux paralympiques en Corée du Sud. Le nouveau roman de Milena Agus. Et puis le temps du week-end, doux mais nuageux. Qui avait imaginé Kim et Trump sur la même photo, le dictateur de Corée du Nord et le chef de la Maison Blanche se serrant la main avant de discuter assis à la même table, alors qu'ils se traitent de tous les noms depuis des mois par communiqué ou réseaux sociaux, et que les menaces fusent sur fond de nucléaire entre le petit gros et le malade mental gâteux. Et pourtant, c'est bien ce qui pourrait se passer d'ici le mois de mai. Le président américain accepte un sommet avec le maître de Pyongyang. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Sébastien.
Aucun président des États-Unis en exercice n'a jamais rencontré un membre de la dynastie au pouvoir en Corée du Nord. Si ce rendez-vous a lieu, Bertrand, il viendra s'ajouter à d'autres rencontres historiques et inattendues.
Oui, et lorsque l'on parle de sommet aussi improbable qu'historique, comment ne pas penser à celui qui a réuni Richard Nixon et Mao Zedong en février 1972 à Pékin, première visite d'un président américain dans ce pays communiste, considéré à Washington comme un adversaire potentiel en pleine guerre froide, un événement inattendu préparé en secret par Henry Kissinger, alors conseiller à la sécurité nationale. Dans la capitale chinoise, Richard Nixon avait dû peser chaque mot. Dans le passé, nous avons été des ennemis par moments. Nous avons de grandes différences aujourd'hui. Ce qui nous rassemble est que nous avons des intérêts communs qui transcendent ces différences. Un discours calibré auquel les Chinois avaient répondu avec la même prudence, mais c'était alors un échange entre deux superpuissances. Autre région du monde, cinq ans plus tard, en novembre 1977, l'Égyptien Anwar El Sadat brise un tabou. Il se rend en Israël pour y rencontrer le premier ministre israélien Menachem Begin et prononce un discours à la Knesset. Le processus de paix a besoin d'un nouvel élan et ce sont les motifs de cette initiative. Nous sommes d'accord sur le principe de la sécurité, mais nous divergeons sur le sens de cette sécurité. En octobre 1986, face à une Union soviétique en plein désarroi, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev se retrouvent à Reykjavik pour parler déjà désarmement nucléaire. Le bluff du président américain sur la guerre des étoiles déstabilise alors le numéro 1 soviétique. Et puis, plus près de nous, on se souvient naturellement de la visite historique de Barack Obama à Cuba en 2016. Rares sont les rencontres de ce genre qui ont radicalement changé l'histoire, car les politiques se succèdent et échangent parfois.
Bertrand Galichet, alors on ne sait pas comment va s'organiser cette rencontre au sommet, ni même où, peut-être dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Ce qui est sûr, c'est qu'elle étonne de Washington à Séoul. Même le secrétaire d'État américain avoue qu'il a été un peu surpris de l'ouverture de Kim Jong-un. C'est une lueur d'espoir, dit Angela Merkel à Berlin. C'est surtout une stratégie d'isolement qui fonctionne, selon le vice-président américain. Une victoire diplomatique certaine pour Donald Trump, confirme Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche scientifique. Elle était l'invitée du journal de 13h de France Inter.
La stratégie de pression maximum et même de menace de frappe militaire de Donald Trump a sans doute joué un rôle significatif dans cette évolution de la stratégie nord-coréenne. Évidemment, on dit que Pyongyang est désormais doté d'une capacité nucléaire, mais ce dont il parle aujourd'hui, et il faudra voir si c'est mis en œuvre, ça n'est pas d'un gel, mais bien d'une dénucléarisation vérifiable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté américain, on ne se contente pas de cette promesse de dialogue, mais on a bien précisé que les sanctions serait maintenue et les pressions maximum seraient maintenues jusqu'au bout, jusqu'à ce que cette dénucléarisation soit effective et vérifiée. Donc on a une vraie rupture par rapport à ce qui se produisait dans le passé, où on avait souvent une amorce de dialogue et que ça suffisait pour établir le contact et la levée des sanctions, alors qu'aujourd'hui, la position est beaucoup plus ferme. Et encore une fois, pour Donald Trump, s'il arrive à résoudre la crise nord-coréenne, ce serait quelque chose qu'il faudrait évidemment mettre à son crédit.
Le président chinois Xi Jinping appelle aussi Donald Trump à dialoguer au plus vite avec le leader nord-coréen. La trêve amorcée entre Washington et Pyongyang, dossier à retrouver également sur franceinter.fr, Claire.
Salah Abdeslam sort de son silence pour la première fois.
Oui, le seul membre encore en vie des attentats du 13 novembre était dans le bureau du juge français chargé de l'enquête ce matin, confronté à un suspect qu'il a aidé dans sa cavale après les attaques. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Salah Abdeslam était muet jusqu'ici, il a brièvement parlé pour le dédouaner.
Oui, Salah Abdeslam a été confronté à un autre suspect, Ali Oulkadi. C'est l'un des trois hommes qui lui ont permis d'échapper à la police au lendemain des attentats de Paris. Il lui a servi de chauffeur pour un dernier petit trajet dans Bruxelles jusqu'aux abords de la principale planque de la cellule terroriste. Ali Oulkadi est mis en examen et incarcéré pour association de malfaiteurs. Sa défense demandait cette confrontation. Son avocate, Marie Dosé, avait fait valoir que sa présence pouvait pousser Abdeslam à parler. Un pari en partie gagnée. Donc, ce matin, sans avocat, Salah Abdeslam commence par invoquer son droit au silence, puis il déclare qu'il ne peut rien pour son ami, qu'il ne peut rien pour lui-même. Mais, à côté de cet ami du quartier de Molenbeek, il va s'exprimer pendant quelques minutes. Il explique que le 14 novembre, sa photo n'était pas encore diffusée et qu'Oulkadi ne pouvait pas savoir qu'il était devenu l'ennemi numéro un. Il affirme encore qu'il n'a pas sollicité son aide et qu'Oulkadi n'est pas entré dans l'appartement où une trace de son ADN a pourtant été retrouvée. Interrogé sur le fait de savoir si Oulkadi était impliqué dans les attentats, Salah Abdeslam s'est renfermé dans le silence.
Sarah Guibaudot, après la réforme des peines il y a trois jours, voici la réforme de la justice, en tout cas les grands axes de la loi de programmation qui doit être présentée en Conseil des ministres dans un mois. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir.
Principale mesure, la fin des cours d'assises telles qu'on les connaît aujourd'hui avec la création pour les crimes les moins graves des tribunaux criminels départementaux.
Oui, le gouvernement entend lancer l'expérimentation le 1er janvier 2019 pour 3 ans dans 2 à 10 départements selon le texte de la future loi que nous avons pu consulter. Pour les crimes punis d'un maximum de 15 ou 20 ans de réclusion, le seuil n'est pas encore fixé, les accusés seraient donc jugés par 5 magistrats professionnels. Cela concernerait selon la chancellerie 54% des affaires qui passent actuellement aux assises. Alors il s'agit essentiellement des viols, des vols à main armée ou encore des coups mortels. L'avantage, c'est d'aller plus vite. Les cours d'assises sont actuellement engorgées. Il faut attendre 1 à 2 ans pour voir son affaire audiencée. Mais symboliquement, certains s'inquiètent de voir le citoyen exclu de ce nouveau tribunal qui pourrait, selon Christiane Ferral-Schul, la présidente du Conseil national des barreaux, devenir l'instrument d'une politique pénale plus répressive.
Le gouvernement dessine aussi, Corinne, une nouvelle carte judiciaire.
Alors c'est le point qui inquiétait beaucoup les acteurs locaux, la peur de voir leur tribunal fermé. Il n'y aura pas de grand soir de la carte judiciaire, a rassuré le Premier ministre Édouard Philippe. Aucun tribunal existant ne sera fermé, mais il va y avoir des réorganisations. Les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance qui traitent les petits litiges seront fusionnés quand ils sont dans la même ville. En revanche, les tribunaux d'instance isolés, par exemple dans les zones rurales, ne devraient pas fermer.
La réforme devrait aussi instaurer au civil le caractère exécutoire de la décision de première instance.
Oui, c'est le volet efficacité du projet de loi en matière de justice civile, c'est-à-dire la justice du quotidien, litige avec un assureur, un voisin, et bien les décisions de première instance seraient immédiatement exécutoires, même s'il y a appel. Autre nouveauté, la possibilité de déposer des plaintes et de se constituer partie civile sur Internet. L'instauration d'un dossier pénal unique et numérique, depuis le dépôt de la plainte jusqu'au jugement. On pourra aussi faire en ligne une demande d'aide juridictionnelle. L'idée, c'est que la justice française, souvent décrite comme très pauvre et très en retard, entre enfin dans le 21e siècle.
Corinne Audouin, Emmanuel Macron a dit mardi qu'il tablait désormais non plus sur 15 000, mais sur 7 000 créations de places de prison d'ici à la fin du quinquennat.
Négocier au cas par cas ou contre-attaquer.
Les partenaires des États-Unis n'ont pas d'autre choix maintenant que Donald Trump a signé son augmentation des droits de douane pour l'acier et l'alu. Paris regrette une guerre commerciale qui ne ferait que des perdants. Berlin se dit inquiète et appelle au dialogue. Buenos Aires demande à être exemptée. Les alliés comme les rivaux de l'Amérique dénoncent un virage virage protectionniste et une attaque contre le libre-échange. Et à Bruxelles, Pierre Benazet, on se prépare soit à aller devant l'Organisation mondiale du commerce, soit à négocier.
Les Européens sont persuadés qu'il y a encore une marge de manœuvre avec la Maison-Blanche. Et même s'ils doutent sérieusement du prétexte sécuritaire invoqué par Donald Trump, ils comptent l'utiliser et se présenter comme des alliés fidèles des États-Unis pour échapper à ces mesures, à l'instar du Canada et du Mexique. Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne. Comme l'Europe et ses entreprises ne sont pas la source d'une menace sécuritaire, nous devrions être exemptés de ces droits de douane. Nos entreprises n'ont pas fait de dumping d'acier ou d'aluminium sur le marché américain et ça ne peut donc pas être utilisé comme excuse pour hausser les droits de douane. Nous allons aussi continuer à préparer nos mesures de rééquilibrage avec l'espoir de ne pas être forcés à les utiliser. Et ces contre-mesures seront largement mises en avant demain lors de la réunion à Bruxelles de la commissaire au commerce Cecilia Malmström avec le représentant américain au commerce Robert Lighthizer, une rencontre avec leur homologue japonais prévue de longue date, mais qui va maintenant porter sur l'acier. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Autre dossier à l'étranger, la Ghouta orientale où la distribution d'aide a lieu sous les bombes. 13 camions sont entrés ce matin dans l'enclave rebelle de l'Est de Damas, mais les bombardements des forces du régime ont repris. Et Médecins sans frontières décrit des vols de matériel médical de la part des forces syriennes. Pierre Mandiara est directeur adjoint des opérations de MSF au téléphone avec Christian Chéneau.
Les convois qui sont passés sont des convois des Nations Unies et du CICR. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ont déclaré qu'une partie du chargement, et en particulier tout ce qui concerne la chirurgie, était prélevée et empêchée de rentrer avec le convoi systématiquement. Par conséquent, ça ne va pas changer radicalement la situation à l'intérieur de la Ghouta, et en particulier par rapport aux soins médicaux, aux soins chirurgicaux pour les blessés, effectivement. Rien ne se passe, et c'est même finalement la répétition de la manière dont la guerre est menée en Syrie toutes ces années. C'est même au-delà d'empêcher l'humanitaire et l'aide médicale en bloquant les convois, en bombardant les hôpitaux, c'est imposer la terreur pour obtenir la reddition.
940 civils, dont environ 200 enfants, sont morts dans la Ghouta orientale depuis la mi-février.
Priorité au rétablissement des comptes publics.
Bruno Le Maire écarte l'appel à une redistribution de cagnottes lancée hier par le rapporteur du budget à l'Assemblée, Joël Giraud, membre de La République En Marche, qui propose de redistribuer une partie de la bonne fortune. Ne refaisons pas les erreurs du passé, répond le ministre de l'Économie, où dès que les choses allaient mieux, on se mettait à redistribuer immédiatement l'argent public, c'est-à-dire l'argent des contribuables. Une entreprise n'est pas seulement un bénéfice et elle n'est pas seulement au service de ses actionnaires. Le gouvernement propose d'introduire la notion de responsabilité sociale et environnementale dans le Code civil. Rien de contraignant, Laurent Kramer, mais l'idée est de l'inscrire noir sur blanc.
Inscrire dans le Code civil la responsabilité sociale et environnementale des entreprises donnerait un sens et une autre perspective que celle des actionnaires, explique Jean-Dominique Senard, président de Michelin et co-auteur du rapport remis aujourd'hui au gouvernement.
Et c'est peut-être un symbole, mais c'est un symbole très fort. Nous pensons que cela va contribuer à créer un souffle nécessaire de ce que nous entendons, que ce que nous vivons dans nos propres entreprises, etc. On sent très bien les attentes que lorsqu'une entreprise est gérée normalement, elle va s'interroger sur les conséquences de son action. Il nous a paru absolument essentiel que ça figure dans le Code civil.
Inscrire également la raison d'être d'une entreprise dans le Code du commerce, cette fois, permettrait de faire reconnaître officiellement le projet ou la mission d'une entreprise qui agit pour l'intérêt général, car il y a aujourd'hui nécessité de redonner du sens au travail, souligne Nicole Nota, ex numéro 1 de la CFDT et co-auteur du rapport.
Il faut constater aujourd'hui qu'il y a une certaine dépréciation de l'image de l'entreprise. On voit par exemple des jeunes qui s'orientent, y compris quand ils sortent de grandes écoles, vers d'autres types d'entreprises que les entreprises cotées, par exemple. Il y a finalement besoin de repenser, de redorer le blason de cette entreprise cotée en particulier.
Au final, pas de préconisation contraignante, il est vrai, mais chaque entreprise devra en liberté définir elle-même son projet et constater en conscience si elle va dans le sens de la responsabilité sociale et environnementale pour la société.
aucune opportunité de production pour Ford à Blanquefort après 2019. Le constructeur américain ferme la porte définitivement de son site de boîte de vitesse de Gironde au-delà de cette date. Il s'engage néanmoins à chercher un repreneur. L'usine emploie 910 personnes. L'histoire de ce pauvre ours du Béarn à présent, qui n'a pas vu de femelle depuis 2004. L'État français est condamné pour carence dans la protection des ours dans les Pyrénées. Il devra payer 8000 euros à deux associations qui réclament depuis des années, sans dire dauphin, de nouveaux lâchers d'ours.
Il n'y avait plus que 5 ou 6 ours bruns dans les Pyrénées en 1995. Ils sont une quarantaine d'après le dernier décompte. Mais l'effectif reste insuffisant pour garantir la viabilité de l'espèce, estime la justice. Patrick Papola de l'Association pour la protection de l'ours Férus.
C'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est le tribunal, mais c'est aussi ce que nous disons depuis plusieurs années. C'est une population qui est encore trop faible et qui peut être soumise à n'importe quel accident, épidémie. Donc c'est encore trop fragile sur le plan démographique. Et le deuxième problème, c'est qu'à moyen terme, la diversité génétique n'est pas encore suffisante. Donc quoi que fassent les ours, même si ils produisent de nombreux oursons chaque année, il faut que du sang neuf soit apporté.
Surtout dans la vallée du Béarn, où deux mâles, père et fils, vivent isolés du reste de la population d'ours des Pyrénées.
Depuis 2004, dans ce secteur, il n'y a plus que deux mâles, depuis que la femelle cannelle a été abattue. Donc évidemment, voilà, un noyau de population avec deux mâles, c'est plus un noyau de population. Donc c'est là, en priorité, qu'il faut lâcher des femelles.
Les associations espèrent un lâcher d'ours au printemps. Le dernier remonte à 2006. Et surtout, un nouveau plan ours attendu depuis 8 ans.
On a toujours dit que la femme était l'avenir de l'homme, n'est-ce pas ?
Évidemment.
C'est reparti pour 10 jours de compétition olympique.
Les Jeux paralympiques débutent demain en Corée du Sud après la cérémonie d'ouverture ce midi. 6 disciplines, ski alpin, ski de fond, snowboard, biathlon, hockey sur glace et curling. Et toujours la même question pour une meilleure visibilité, Laetitia Bernard. Pourquoi les handicapés 2 semaines après les valides ?
Un point sur lequel à peu près tout le monde s'accorde, organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques en même temps, c'est techniquement impossible, irréalisable. Beaucoup trop de monde, il faudrait des infrastructures démesurées. Mais pourquoi attendre 15 jours entre les deux événements ? Bénédicte Normand est chef de mission adjointe de la Fédération française handisport à Pyeongchang.
Les Olympiques finissent, derrière ils doivent tout ranger. Ensuite, il y a 2 jours de transition pour pouvoir changer l'ensemble de la signalétique. Et puis derrière, eh bien, il faut le temps que les équipes paralympiques s'installent.
Précisons que cette organisation est prévue dans une convention entre le Comité international olympique et le Comité international paralympique. Et que jusqu'aux Jeux de Pékin, la ville hôte des Jeux valides n'était pas obligée d'organiser les Jeux paralympiques. Los Angeles avait par exemple refusé de le faire en 1984. Mais pourquoi ne pas mettre les paralympiques juste avant les Jeux valides, ce qui leur assurerait davantage sans doute de visibilité ? Réponse de Bénédicte.
En fait, les Jeux Olympiques, c'est un test grandeur nature. En général, les organisateurs font tout pour que ça soit prêt au moment des Jeux Olympiques. Et nous, derrière, eh ben, on récolte les bénéfices de ce qui s'est passé avant.
Autrement dit, les principaux intéressés sont officiellement satisfaits de la situation. Pas de changement en perspective, donc. Pyeongchang, Marc Garvenès, Laetitia Bernard, France Inter.
Et la compétition commence donc demain. On termine avec Les Terres Promises de Milena Agus, 7e roman de l'écrivaine sarde, qui était devenue un phénomène en France il y a 10 ans, avec Mal de Pierre, adapté au cinéma par Nicole Garcia. Elle revient avec un livre qui parle des chimères que nous poursuivons, Ilana Mor-Youssef, et qui nous condamne, sans nous en rendre compte, à l'insatisfaction perpétuelle.
Comment peut-on vivre dans un endroit pareil ? Se demande Esther, pressée de quitter le petit village sarde où elle dépérit. Mais Gênes ne lui plaira pas davantage, et Milan encore moins. Elle aspire à retrouver son village, et à nouveau, c'est la déception. Felicita, sa fille, est à l'opposé, toujours prête à s'émerveiller, à passer outre la mesquinerie de sa meilleure amie, l'égoïsme de son fiancé. Sa terre promise à elle, c'est ici. Et maintenant, Milena Agus, traduite par son éditrice française, Liana Levy.
Felicità è l'aspirazione.
Felicità est ce à quoi nous devrions aspirer être. Elle représente l'idéal humain, même si elle n'est absolument pas réaliste. Malheureusement, je n'ai jamais connu de personne comme ça.
O perlomeno io non ne ho mai conosciuto una.
Il y a une magie de l'écriture de Milena Agus. Elle laisse les grands mots Aux autres, elle est bien dans la simplicité, dans le concret de la vie et des sensations. La plage, le vent, les plats cuisinés, la musique.
La question que je pose toujours à ceux qui me disent avoir lu mes livres, c'est « Est-ce que tu t'es quelque peu amusé ?» Et tout ça, c'est parce que je ne crois pas écrire une œuvre géniale. Mais je pense, dans mon œuvre, faire une sorte de massage bénéfique à l'âme des lecteurs.
Bénéfico dell'anima.
En cette fin d'hiver, nous sommes nombreux à avoir besoin d'un massage de l'âme. On ne peut que conseiller de se précipiter sur ces terres promises.
Terres promises au pluriel de Milena Agus, c'est publié chez Liana Lévy.
Merci beaucoup. C'était le journal de Sébastien Paour.